Somnifère, le podcast.
Somnifère, c'est un podcast en deux parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somniferelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit.
Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer.
Quelle qualité nous rend le plus désirable ? La beauté ou l'esprit ? Bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 5 octobre, et ce soir, Somnifère vous ramène en enfance, avec le conte de Charles Perrault, Riquet à la houppe. Je vous souhaite une excellente nuit de sommeil, et maintenant place à notre séance de relaxation.
La séance de relaxation.
Installez-vous confortablement. Prenez une grande inspiration par le nez. Retenez votre respiration pendant quelques instants et expirez par la bouche. Ce soir, notre séance de relaxation vise à évacuer le stress, l'anxiété et l'angoisse. Nous allons également réaliser un petit exercice qui vous permettra, en cas d'anxiété majeure pendant votre journée, de vous recentrer rapidement et de retrouver le calme intérieur. Nos rythmes de vie modernes sont déjà très anxiogènes et la plupart d'entre nous ressentons les effets du stress au quotidien. La crise sanitaire qui nous est tombée dessus n'arrange rien et il est parfois difficile de lâcher prise et de retrouver son équilibre. Les symptômes désagréables qui en découlent sont normaux et il faut apprendre à les accepter et à les observer plutôt que de se laisser envahir par nos émotions. Commencez par relâcher complètement votre visage. On a souvent tendance, sans s'en rendre compte, à crisper la mâchoire, à froncer les sourcils, à plisser le front. Prenez quelques instants pour détendre tous les muscles de votre visage. Relâchez votre nuque, vos épaules, votre dos, ressentez les muscles de votre dos se relâcher complètement. Vos bras et vos mains sont confortablement posés sur le matelas, calmes et détendus. Détendez vos hanches, vos cuisses, vos jambes, vos pieds. Concentrez-vous sur l'air qui entre et sort de vos poumons et observez vos sensations. Ne cherchez pas à respirer lentement ou profondément, laissez-vous juste aller à respirer naturellement et observez votre souffle. respiration est indispensable pour retrouver le calme en cas de crise, de panique ou d'anxiété, mais il existe également une technique d'ancrage très simple et redoutablement efficace, l'acupression. Lorsque vous ressentez du stress, de l'angoisse ou vous êtes en état de panique, votre corps est en fait en train de réagir à un danger qu'il suppose réel et imminent en activant plusieurs paramètres pour vous permettre de réagir immédiatement et d'être en état d'alerte, et de pouvoir fuir ou de vous défendre physiquement. Ces symptômes sont une respiration plus rapide, un rythme cardiaque accéléré, une sensation désagréable dans la poitrine, des tensions musculaires, etc. Mais ces réponses biologiques du corps ne sont plus adaptées à nos modes de vie actuels. Il est possible de demander à notre corps de ne plus envoyer ces signaux de stress qui se traduisent par des symptômes désagréables et de lui dire de se calmer. Aussi incroyable que cela puisse paraître, en médecine chinoise, il existe un point entre votre index et votre majeur, là où se rejoignent votre second et votre troisième doigt, capable de calmer toute sensation physique de stress et de dire à votre corps « Le danger n'est pas réel, on se calme. » La prochaine fois que vous ressentez les symptômes du stress vous envahir, faites pression sur ce point pendant 10 secondes, puis relâchez. Puis appliquez une nouvelle pression toutes les 10 secondes jusqu'à ce que vous retrouviez le calme. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche à votre rythme. À chaque expire, votre corps s'enfonce davantage dans le matelas. À présent, prenez quelques instants pour vous concentrer simplement sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Prenez une grande inspiration par le nez et sentez l'air gonfler vos poumons. Puis expirez par la bouche. À présent, prenez une nouvelle grande inspiration par le nez et sentez l'air venir gonfler votre ventre. Puis expirez à votre rythme.
L'histoire du soir.
Il était une fois une reine qui avait un fils si laid et si mal fait qu'on douta longtemps s'il avait forme humaine. Une fée, qui se trouva à son baptême, assura qu'il ne laisserait pas d'être aimable parce qu'il aurait beaucoup d'esprit. Elle ajouta même qu'il pourrait, en vertu du don qu'elle venait de lui faire, donner autant d'esprit qu'il en aurait à la personne qu'il épouserait. Tout cela consola un peu la pauvre reine, qui était bien affligée d'avoir pour enfant un si vilain marmot. Il est vrai que cet enfant ne commença pas plus tôt à parler, qu'il dit mille jolies choses et qu'il avait dans toutes ses actions ce je ne sais quoi de si spirituel qu'on en était charmé. J'oubliais de dire qu'il avait une petite houppe de cheveux sur la tête, ce qui fit qu'on le nomma Riquet à la houppe, car Riquet était le nom de la famille. La reine d'un royaume voisin avait deux filles. La première était plus belle que le jour. La même fée qui avait assisté à la naissance du petit Riquet à la houppe voulut modérer la joie de la reine. Elle lui déclara que cette petite princesse n'aurait point d'esprit, et qu'elle serait aussi stupide qu'elle était belle. Cela mortifia beaucoup la reine, mais elle eut un bien plus grand chagrin, car sa seconde fille se trouva extrêmement laide. « Ne vous affligez point tant, madame, lui dit la fée. Votre fille sera récompensée d'ailleurs, et elle aura tant d'esprit qu'on ne s'apercevra presque pas qu'il lui manque de la beauté. » « Dieu la veuille, répondit la reine. Mais n'y aurait-il pas un moyen de faire avoir un peu d'esprit à l'aînée ? Je ne puis rien pour elle, madame, du côté de l'esprit, lui dit la fée. Mais je puis tout du côté de la beauté, et comme il n'y a rien que je ne veuille faire pour votre satisfaction, je vais lui donner pour don de pouvoir rendre beau ou belle la personne qui lui plaira. » À mesure que ces deux princesses devinrent grandes, leur perfection crurent aussi avec elles, et on ne parlait partout que de la beauté de l'aînée et de l'esprit de la cadette. Il est vrai que leurs défauts augmentèrent beaucoup avec l'âge. La cadette enlaidissait à vue d'œil, et l'aînée devenait plus stupide de jour en jour. Ou elle ne répondait rien à ce qu'on lui demandait, ou elle disait une sottise. Elle était avec cela si maladroite qu'elle n'eût pu ranger 4 porcelaines sur le bord d'une cheminée sans en casser une, ni boire un verre d'eau sans en répandre la moitié sur ses habits. Quoique la beauté soit un grand avantage, cependant la cadette l'emportait presque toujours sur son aînée, dans toutes les compagnies. D'abord, on allait du côté de l'aînée pour la voir et pour l'admirer. Mais bientôt après, on allait à celle qui avait le plus d'esprit, pour lui entendre dire 1000 choses agréables. Et on était étonné qu'en moins d'un quart d'heure, l'aînée n'avait plus personne auprès d'elle, et que tout le monde s'était rangé autour de la cadette. L'aînée, quoique fort stupide, le remarqua bien, et elle lui donnait sans regret toute sa beauté pour avoir la moitié de l'esprit de sa sœur. La reine, toute sage qu'elle était, ne put s'empêcher de lui reprocher plusieurs fois sa bêtise, ce qui pensa faire mourir de douleur cette pauvre princesse. Un jour qu'elle s'était retirée dans un bois pour y plaindre son malheur, elle vit venir à elle un petit homme fort laid et fort désagréable, mais vêtu très magnifiquement. C'était le jeune prince Riquet à la Houppe, qui avait quitté le royaume de son père pour la voir et lui parler. Il l'aborde avec tout le respect et toute la politesse imaginable. Ayant remarqué, après lui avoir fait les compliments ordinaires, qu'elle était fort mélancolique, il lui dit « Je ne comprends point, madame, comment une personne peut être aussi triste que vous le paraissez, car quoique je puisse me vanter d'avoir vu une infinité de personnes, je puis dire que je n'en ai jamais vu dont la distinction approche de la vôtre. » « Cela vous plaît à dire, monsieur, » lui répondit la princesse et en demeura là. « La beauté, » reprit Riquet à la Houppe, « est un grand avantage, et quand on la possède, je ne vois pas qu'il y ait rien qui puisse nous affliger beaucoup. »« J'aimerais mieux, » dit la princesse, « être aussi laide que vous et avoir de l'esprit, que d'avoir de la beauté comme j'en ai, et être bête autant que je le suis. Il n'y a rien, madame, qui marque davantage qu'on a de l'esprit, que de croire n'en pas avoir, et il est de nature de ce bien-là que plus on en a, plus on croit en manquer. « Je ne sais pas cela, » dit la princesse, « mais je sais que je suis fort bête, et c'est de là que vient mon chagrin qui me tue. Si ce n'est que cela, madame, qui vous afflige, je puis aisément mettre fin à votre douleur. Et comment ferez-vous ? J'ai le pouvoir, madame, de donner de l'esprit autant qu'on en saurait avoir à la personne que je dois épouser. Et comme vous êtes, madame, cette personne, il ne tiendra qu'à vous que vous n'ayez autant d'esprit qu'on peut avoir, pourvu que vous vouliez bien m'épouser. » La princesse demeura tout interdite et ne répondit rien. « Je vois, » reprit Riquet à la Houppe, « que cette proposition vous fait de la peine, et je ne m'en étonne pas. Mais je vous donne un an tout entier pour vous y résoudre. » La princesse avait si peu d'esprit et en même temps une si grande envie d'en avoir qu'elle s'imagina que la fin de cette année ne viendrait jamais, de sorte qu'elle accepta la proposition qui lui était faite. Elle n'eut pas plutôt promis à Riquet à la Houppe qu'elle l'épouserait dans un an à pareil jour qu'elle se sentit tout autre qu'elle n'était auparavant. Elle se trouva une facilité incroyable à dire tout ce qui lui plaisait, et à le dire d'une manière fine, aisée et naturelle. Elle commença, dès ce moment, une conversation soutenue avec Riquet à la houppe, où elle brilla d'une telle force que Riquet à la houppe crut lui avoir donné plus d'esprit qu'il ne s'en était réservé pour lui-même. Quand elle fut retournée au palais, toute la cour ne savait que penser d'un changement si subit et si extraordinaire, car autant qu'on lui avait ouï dire d'impertinence auparavant, autant lui entendait-on dire des choses bien sensées et infiniment spirituelles. Toute la cour en eut une joie qui ne se peut imaginer. Il n'y eut que sa cadette qui n'en fut pas bien aise, parce que, n'ayant plus sur son aîné l'avantage de l'esprit, elle ne paraissait plus auprès d'elle qu'une guenon fort désagréable. Le roi se conduisait par ses avis et allait même quelquefois tenir le conseil dans son appartement. Le bruit de ce changement s'étant répandu, tous les jeunes princes des royaumes voisins la demandèrent en mariage. Mais elle n'en trouvait point qui eût assez d'esprit, et elle les écoutait tous sans s'engager à pas un d'eux. Elle alla, par hasard, se promener dans le même bois où elle avait trouvé Riquet à la houppe, pour rêver plus commodément à ce qu'elle avait à faire. Dans le temps qu'elle se promenait, rêvant profondément, elle entendit un bruit sourd sous ses pieds, comme de plusieurs personnes qui vont et viennent et qui agissent. Ayant prêté l'oreille plus attentivement, elle ouït que l'on disait « Apporte-moi cette marmite, l'autre, donne-moi cette chaudière, mets du bois dans ce feu. » La terre s'ouvrit dans le même temps, et elle vit sous ses pieds comme une grande cuisine pleine de cuisiniers, de marmitons et de toutes sortes d'officiers nécessaires pour faire un festin magnifique. Il en sortit une bande de 20 ou 30 rôtisseurs qui allèrent se camper dans une allée du bois autour d'une table fort longue et qui tous, la lardoire à la main et la queue de renard sur l'oreille, se mirent à travailler en cadence au son d'une chanson harmonieuse. La princesse, étonnée de ce spectacle, leur demanda pour qui ils travaillaient. « C'est madame, lui répondit le plus apparent de la bande, pour le prince Riquet à la houppe, dont les noces se feront demain. » La princesse, encore plus surprise qu'elle ne l'avait été, et se ressouvenant tout un coup qu'il y avait un an qu'à pareil jour elle avait promis d'épouser le prince Riquet à la houppe, pensa tomber de son haut. Ce qui faisait qu'elle ne s'en souvenait pas, c'est que quand elle fit cette promesse, elle était une bête, et qu'en prenant le nouvel esprit que le prince lui avait donné, elle avait oublié toutes ses sottises. Elle n'eut pas fait 30 pas en continuant sa promenade que Riquet à la houppe se présenta à elle, brave, magnifique et comme un prince qui va se marier. « Vous me voyez, dit-il, madame, exact à tenir ma parole, et je ne doute point que vous ne veniez ici que pour exécuter la vôtre et me rendre, en me donnant la main, le plus heureux de tous les hommes. » « Je vous avouerai franchement, répondit la princesse, que je n'ai pas encore pris ma résolution là-dessus et que je ne crois pas pouvoir jamais la prendre telle que vous la souhaitez. « Vous m'étonnez, madame, lui dit Riquet à la houppe. « Je le crois, dit la princesse, et assurément, si j'avais affaire à un brutal, à un homme sans esprit, je me trouverais bien embarrassé. Une princesse n'a que sa parole, me dirait-il, et il faut que vous m'épousiez, puisque vous me l'avez promis. Mais comme celui à qui je parle est l'homme du monde qui a le plus d'esprit, je suis sûr qu'il entendra raison. Vous savez que quand je n'étais qu'une bête, je ne pouvais néanmoins me résoudre à vous épouser. Comment voulez-vous qu'en ayant de l'esprit que vous m'avez donné, qui me rend encore plus difficile que je n'étais, je prenne aujourd'hui une résolution que je n'ai pas pu prendre dans ce temps-là? Si vous pensiez de tout de bon à m'épouser, vous avez eu grand tort de m'ôter ma bêtise et de me faire voir plus clair que je ne voyais. Si un homme sans esprit serait bien reçu, comme vous venez de le dire, à vous reprocher votre manque de parole, pourquoi voulez-vous, madame, que je n'en eusse pas de même dans une chose où il y va de tout le bonheur de ma vie? Est-il raisonnable que les personnes qui ont de l'esprit soient d'une pire condition que celles qui n'en ont pas? Le pouvez-vous prétendre vous qui en avez tant et qui avez tant souhaité d'en avoir. Mais venons-en au fait, s'il vous plaît. À la réserve de ma laideur, y a-t-il quelque chose en moi qui vous déplaise? Êtes-vous mal contente de ma naissance, de mon esprit, de mon humeur et de mes manières? Nullement, répondit la princesse. J'aime en vous tout ce que vous venez de me dire. Si cela est ainsi, je vais être heureux puisque vous pouvez me rendre le plus aimable des hommes. Comment cela se peut-il? Répondit la princesse. Cela se fera, répondit Rika à la houppe, si vous souhaitez que cela soit. Et afin, madame, que vous n'en doutiez pas, sachez que la même fée qui, au jour de ma naissance, me fit le don de pouvoir rendre spirituelle la personne qu'il me plairait, vous a aussi fait le don de pouvoir rendre beau celui à qui vous voudrez bien faire cette faveur. Si la chose est ainsi, dit la princesse, je souhaite de tout mon cœur que vous deveniez le prince du monde le plus beau et le plus aimable, et je vous en fais le don autant qu'il est en moi. La princesse n'eut pas plus tôt prononcé ces paroles que Riquet à la houppe parut à ses yeux l'homme du monde le mieux fait et le plus aimable qu'elle eût jamais vu. Quelques-uns assurent que ce ne furent point les charmes de la fée qui opérèrent cette métamorphose. Ils disent que la princesse, ayant fait réflexion sur la persévérance de Riquet, sur sa discrétion et sur toutes les bonnes qualités de son âme et de son esprit, ne vit plus la difformité de son corps, ni la laideur de son visage, que sa bosse ne lui sembla plus que le bon air d'un homme qui fait le gros dos, et qu'au lieu que jusqu'alors elle l'avait vu boiter effroyablement, elle ne lui trouva plus qu'un certain air penché qui la charmait. Ils disent encore que ses yeux, qui étaient louches, ne lui en parurent que plus brillants, et qu'enfin son gros nez rouge eut pour elle quelque chose de martial et d'héroïque. Quoi qu'il en soit, la princesse lui promit sur le champ de l'épouser, pourvu qu'il en obtint le consentement du roi son père. Le roi, ayant su que sa fille avait beaucoup d'estime pour Riquet à la houppe, qu'il connaissait d'ailleurs pour un prince très spirituel et très sage, le reçut avec plaisir pour son gendre. Dès le lendemain, les noces furent faites, ainsi que Riquet à la houppe l'avait prévu, et selon les ordres qu'il en avait donnés longtemps auparavant.
Bonne nuit. Bonne nuit.